Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, le langage est-il une arme? Libération de la parole des femmes derrière MeToo, gilets jaunes, réforme des retraites. Dans cette période de lutte, chacun s'arme de mots. Elle poursuit donc son analyse du langage dans sa dimension performative et revient sur l'importance de la parole alors que les mouvements sociaux ont repris de la vigueur cette année. Invitée jusqu'à 13h30, la philologue et philosophe Barbara Cassin, auteure de « Qu'en dire, c'est vraiment faire » paru l'an dernier et cet automne de « Hommes, femmes, philosophie » avec Alain Badiou chez Fayard. Elle vient également de donner un entretien dans et pour la langue à la revue Esprit dans le numéro sorti ce mois-ci. Médaille d'or du CNRS l'an passé et académicienne depuis peu. Bonjour Barbara Cassin.
Bonjour.
Alain Badiou est un vieux complice de plus de 30 ans, je crois. Ensemble, depuis longtemps, vous menez un travail d'édition comme directeur de collection. Comment est née cette amitié entre vous deux?
C'est d'abord, comme toujours, le fruit d'un hasard, d'une rencontre. Et au seuil, les directeurs de collection qui dirigeaient la collection L'Ordre philosophique cherchaient des remplaçants. Et donc Alain Badiou cherchait quelqu'un avec lui pour remplacer Ricoeur et François Val.
Et qui a eu l'idée de vous marier? Parce qu'on va voir, vous êtes assez différents, lui.
C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés au seuil. Je venais de publier un livre sur Aristote, sur le livre Gamma de la métaphysique, sur le principe de non-contradiction, la manière dont il était ancré et dans le langage, dans ce que j'appelais la décision du sens. Il a trouvé ça bien. Et voilà, on s'est rencontrés et ça s'est fait.
Platon, Aristote contre Gorgias, vous refaites le match dans cet échange que vous publiez aujourd'hui dans Hommes, Femmes, Philosophie, dans cette collection Ouverture que vous dirigez ensemble chez Fayard, après avoir quitté Le Seuil. Le principe de non-contradiction, l'universel contre le relativisme, vous vous opposez, vous vous chamaillez un peu, vous discutez surtout, et c'est très intéressant de voir comment vos pensées évoluent à travers cet échange, cette correspondance. Qu'est-ce qui vous rapproche, qu'est-ce qui vous dit différencie? Je vous propose d'écouter les mots d'Alain Badiou qui revient sur l'irréductible clivage.
C'est une tentation évidente. Tentation évidente et en plus une simplification admirable. On aurait dans l'histoire de la philosophie depuis le début en réalité deux figures, l'une rationaliste et mathématisée, l'autre poétisée et langagière. On aurait d'un côté la recherche d'un langage philosophique aussi univoque que possible, aussi tendu vers le paradigme mathématique que possible, une phrase n'a un seul sens, si possible, etc. Et puis de l'autre côté, on a au contraire les jeux de langage comme figure inéluctable de toute pensée véritable, de toute pensée libératrice, etc. etc. Et on continuerait, et au terme de ce gigantesque, cette gigantesque division, eh ben, on trouverait Barbara et moi, voilà, comme des produits historiques de dernier rang d'une histoire qui a commencé avec Homère et Pythagore.
Voilà, et vous étiez là tous les deux sur cette scène à la librairie Mola en novembre cette année. En réalité, parce que là on entend Alain Badiou utiliser le conditionnel, comment avez-vous pu dialoguer? Comment êtes-vous parvenu à dépasser une partie de ces différences?
On les a pas dépassées, je crois. On est assez obstinés et têtus l'un comme l'autre. Vous l'entendez, Alain est très clair. Et donc, on refait le match Platon-Gorgias. Sauf que dans ce livre, il se complique d'un match homme-femme. C'est-à-dire que, effectivement, la problématique Platon, incarnée par Badiou, c'est à la fois les mathématiques, l'univocité, mais aussi la domination d'une certaine manière, la domination dans l'histoire de la philosophie, peut-être la domination tout court, même s'il s'en défendrait, évidemment. Là, je ne dis pas des choses avec lesquelles il serait d'accord. C'est pour ça que je dis que le match continue. Donc, la domination, de telle sorte que tout ce qu'est l'autre va servir au plus grand bien du même. C'est-à-dire que le fait que les femmes ne soient pas d'accord, soient des empêcheuses de penser en rond, pour reprendre un très joli titre d'Isabelle Stengers et Vinciane Després, ça, c'est pour le plus grand bien de celui qui pense en rond, justement. Et enfin, c'est-à-dire qui pense en haut, c'est-à-dire du philosophe roi, c'est-à-dire d'Alain Badiou, en l'occurrence, d'Alain Platon. Et voilà, c'est contre ça, essentiellement, que j'en ai. C'est-à-dire le fait que la femme soit laide et la servante, au fond, qui le point d'impulsion pour mieux penser encore, comme on pense déjà. Eh bien, voilà, ça me contrarie beaucoup, et je ne suis pas d'accord avec ça, et donc c'est ça que je n'arrête pas de dire.
Lui plutôt platonicien, vous plutôt sophiste, c'est comme ça que vous marquez votre différence l'un et l'autre dans Homme-Femme Philosophie en ouverture de cet échange. Il a raison quand il vous classe du côté de l'idéalisme moderne et se classe lui du côté du classicisme, un classique attardé, voilà comment il se définit, bien sûr avec un peu d'humour. Il est quand même assez charmeur, hein, d'ailleurs ce Alain Badiou, Platon, y compris dans sa rhétorique, qu'il cherche à séduire et à convaincre. Hein.
Tout à fait, mais Platon aussi. Donc Platon était en partie gorgianesque. Il était en partie sophiste. Et Socrate, d'ailleurs, s'est fait condamner pour les chefs d'accusation qu'on impute, que Platon lui-même impute aux sophistes. Bon. Donc il y a là une perméabilité entre, dans toute la Grèce, entre, disons, la rhétorique, le pouvoir du langage et le pouvoir de la philosophie. Mais quand on veut les séparer et tenir bon l'un contre l'autre, eh bien, on a Badiou et pas vraiment Cassin, parce que moi, je ne tiens pas bon à cette différence. Je ne tiens à aucune de ces stricts partages. Je ne crois pas à la vérité avec un grand V, c'est à peu près tout. Je ne crois pas à l'universel tout court, c'est-à-dire que je pense que l'universel, c'est toujours l'universel de quelqu'un. Et même l'universel mathématique, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment un universel. C'est vrai, on fait les mêmes mathématiques que Dieu. Ben justement, ça m'inquiète, si vous voulez. Si on fait les mêmes mathématiques que Dieu, pour reprendre la thématique de Platon jusqu'à Leibniz, en passant par Descartes, etc. Si on fait les mêmes mathématiques que Dieu, ben, je ne suis pas très sûr qu'elle soit un universel. Je pense que c'est plutôt très, très ancré dans notre universel. Donc voilà, même la mathématique ne me rassure pas.
Oui, d'ailleurs, vous dites souvent que vous défendez un universel dédié, meilleur pour, comme une stratégie plutôt que comme une valeur en soi. Ce serait quoi, par exemple ?
En l'occurrence, je crois à, non pas à la vérité, mais au plus vrai, c'est-à-dire déjà un comparatif, et donc pas à la dichotomie vrai-faux. Bon, je pense que c'est un fétiche, bon, comme dit Austin, par exemple, à la fin de « Quand dire, c'est vraiment faire ». C'est l'un des deux fétiches avec valeur faite, et je le crois. Donc, je ne crois pas à la vérité tout court, mais au plus vrai. Et je ne crois pas au plus vrai tout court, mais au plus vrai comme meilleur pour. C'est-à-dire, c'est ce que j'appelle un comparatif dédié. Et c'est, là je reprends les termes, non pas avec comparatif dédié, mais avec meilleur pour, les termes de Protagoras. Protagoras, mis en scène par Platon et dans la bouche de Socrate. Donc, on voit bien déjà que tout ça est un peu tordu et extrêmement complexe par rapport au langage, par rapport au discours, par rapport à la manière dont on se sert de la discursivité et de la rhétorique. Voilà. Donc, c'est cette complexité qui m'amuse et qui me passionne et qui en dit long pour moi sur ce que pourrait être la philosophie d'une femme. Voilà. C'est-à-dire pas une philosophie qui cherche à dominer, à dire l'un, même si Platon-Badiou n'arrête pas, ou Badiou-Platon n'arrête pas de dire que ce n'est pas l'un qu'il vise, mais que c'est l'un en tant que multiple, etc., que la multiplicité est tout à fait présente dans sa pensée. Je le crois. Il m'accuse de ne pas le lire assez bien, et je le crois. Je le crois aussi, là. Mais, au fond, peu m'importe, j'ai quelques fétiches contre lesquels je tape. Voilà. Et l'un avec un grand U et la vérité avec un grand V, voilà, ces fétiches-là me paraissent terrifiants par leurs conséquences.
Alors dans Homme, Femme, Philosophie, vous réfléchissez à la philosophie aujourd'hui et au mélange des genres. Vous avez rassemblé votre correspondance, cet échange autour du genre et des idées. Être femme en philosophie, est-ce que ça peut induire une autre manière de penser? C'est aussi la question que vous vous posez. Est-ce que les femmes font de la philosophie autrement?
C'est vraiment la question qu'on se pose, c'est-à-dire que déjà on part avec un handicap terrible, puisque pendant des siècles elles n'ont pas fait de philosophie, elles sont des exceptions rarissimes, et elles sont même en tant que philosophes mises dans la bouche des hommes. On pense à Diotime par exemple, qui est toujours parlé par quelqu'un d'autre. Bon, donc pendant des siècles, elles n'ont pas fait de philosophie, mais pendant des siècles, elles n'ont pas fait grand-chose non plus. Elles n'avaient pas le droit de faire grand-chose. Elles ne sont pas plus, je ne sais pas, physiciennes, ou elles sont rarissimes, même pas plus artistes. Elles avaient quand même le droit d'être poètes ou de... bon, Sappho est un grand exemple, ou bien d'écrire des romans, ou des nouvelles, ça va encore, c'est un truc qui ressemble un peu à de la tapisserie, donc ça va.
Donc on a longtemps pensé quand même qu'une femme qui faisait profession de la réflexion ou de la pensée risquait de disqualifier aussi cette discipline.
Oui, et de se disqualifier comme femme, de disqualifier la féminité en même temps que la discipline, ça faisait beaucoup. Elle perdait sur tous les tableaux, la pauvre. Bon, donc disons que les choses ont évidemment changé, mais ont changé de manière macro sociologique, c'est-à-dire que ma mère n'avait pas le droit de vote. Ça déjà, elle n'avait pas de compte en banque, autonome. Donc déjà, vous voyez bien à quel point tout ça a absolument changé les conditions de la femme. Alors, à partir de quoi on peut se demander, et Badiou a raison de le faire, si une femme, elle a à être un homme comme un autre. Bon, probablement pas. Probablement qu'il se passe quelque chose d'autre. Et c'est ça qu'on a essayé d'analyser sur le point très précis de la philosophie avec Badiou. Donc, d'abord, je ne crois pas à la philosophie tout court, c'est ce que j'arrête pas de dire. Je crois à la philosophie et je crois à la porosité des genres. Je pense que... En tant que est un bon terme. Je philosophe en tant que femme. Et puis quand on me dit « Ah, tu dis ça parce que t'es une femme », je me rebelle et je dis pas du tout, je dis ça en tant que philosophe. Donc j'ai une identité stratégique. Je pense que ça, c'est assez ce qui nous convient maintenant. Hein. Je ne dis pas qu'il va falloir que l'identité des femmes soit toujours stratégique. Je dis que maintenant, c'est pas mal.
Est-ce que dans cette identité stratégique, il y a une part d'idéalisme, comme l'évoquait Alain Badiou, vous concernant cet idéalisme moderne? Est-ce que vous vous sentez, vivez comme philosophe et femme et idéaliste, voire moderne?
Mais je ne sais pas ce que ça veut dire, idéaliste. Je ne sais même pas ce que ça veut dire dans sa bouche et je ne sais pas ce que ça veut dire tout court. J'ai beaucoup de mal à rentrer dans des cases qui, par ailleurs, sont des cases absolument évolutives. Le fait qu'il y ait l'adjectif moderne à coller, je sais encore moins ce que ça veut dire. Parce qu'après tout, idéaliste, ça veut dire quoi? Si on prend la racine, ça veut dire qu'il croit à l'eidos, à l'idée. Donc ça veut dire platonicien. C'est parfait. Bon, alors moi, je serais platonicienne? Ben non. Bon. Et moderne, alors quoi? Qu'est-ce que ça bouge, le fait que ce soit un idéalisme moderne? J'en sais rien. Je pense que ça rentre dans un autre système d'opposition. Ça veut dire que je ne suis pas réaliste. Ah bon? Bah, montrez-moi ça.
C'est une discipline très masculine, vous l'avez dit. Alors, il semblerait que vous ayez eu, vous, au lycée, Barbara Cassin, une prof, qui vous ait plutôt marqué, mais... Par la suite, c'était surtout des hommes, Jean Beaufret, un proche d'Heidegger, Michel Deguy. Est-ce qu'ils vous ont tous, durant ce parcours universitaire, traité comme l'égal de vos camarades étudiants? Ou est-ce que le fait d'avoir été marqué par des figures masculines dans cette discipline a aussi influencé votre manière d'être philosophe et aujourd'hui?
Alors, au fond, vous demandez deux choses différentes. La première, c'est est-ce que je me suis sentie, traitée comme femme? En tant qu'étudiante? Bah, pas du tout, ou alors heureusement. C'est-à-dire que c'était plutôt plus amusant de pouvoir déporter les choses, de pouvoir jouer sur plusieurs tableaux. Ça m'a toujours beaucoup, beaucoup amusée. Et c'est peut-être pour ça que j'ai des profs hommes ou que je m'entends bien avec les hommes. C'est qu'au moins, je peux jouer sur le « en tant que ». Bon, ça, c'est la première réponse. Je ne sais plus ce que vous avez demandé d'autre.
Sur la manière dont ça a pu aussi vous influencer comme philosophe après, dans votre manière de penser. Mais est-ce que vous êtes justement construit en opposition par rapport à ces... en admiration et en opposition par rapport à ces figures masculines?
Mais d'abord, ces figures, elles étaient très contrastées. Oui. Je veux dire que j'étais au séminaire du Thor, il y avait à la fois Martin Heidegger et René Char. Il n'y a pas plus différent. Ils se sont rejoints là. Mais le poète résistant... Et le philosophe, quand même nazi, c'est très improbable qu'il soit conjoint. Donc, c'était plutôt très intéressant de voir quel type de distance s'instaurait entre l'un et l'autre. Et je dois dire que, en l'occurrence, si quelqu'un m'a marqué, c'est plutôt René Char que Martin Heidegger. C'est-à-dire que c'est l'espèce d'ouverture je sais pas, solaire que pouvait représenter la poésie. Mais solaire est un mauvais mot. C'est une ouverture de tout temps que pouvait représenter la poésie. Ça m'a paru plus passionnant et plus, je ne sais pas, plus désirable que la ponctualité éthérée de la pensée. Voilà.
Heidegger, c'est lui que vous appelez le philosophe nazi, et pourtant ça ne vous a pas empêché tous d'aller écouter ses séminaires. Vous n'avez pas pratiqué en connaissant son passé, puisque c'était visiblement le cas déjà un peu à ce moment-là.
Oui, mais c'était juste un peu. Hein. Ouais. C'était juste
de pratiquer une politique de la chaise vide, c'était pas l'idée.
Non, mais c'était. Il faut comprendre que Heidegger, Victor Hugo est notre plus grand poète, hélas. Heidegger était notre plus grand philosophe, hélas. C'est-à-dire que quand on fait une série de philosophes en histoire de la philosophie, eh bien, il vient après Hegel et Nietzsche. Et c'est là qu'il se situe. Et après Husserl, peut-être, que je connais beaucoup moins bien. Donc, pour moi, sa manière de lire les Grecs était une manière tout à fait passionnante. Et je me suis construite alors là, à la fois avec les outils qu'il pouvait donner, mais aussi contre lui, puisque, au fond, ma première question philosophique autonome, c'était, mais peut-on être autrement pré-socratique ? Peut-on être autrement lu que comme Heidegger lit, par exemple, Parménide, c'est-à-dire comme une aurore, comme une origine, comme etc., comme un enracinement dans une race et dans un sol et dans une langue. Donc peut-on aussi pratiquer le grec autrement ? Peut-on pratiquer la philosophie pré-socratique, c'est-à-dire des premiers grecs, autrement ? Et là, c'est vraiment ce que j'ai cherché. Et c'est comme ça que j'en suis venue à travailler, grâce à Pierre Aubinck d'ailleurs, sur la sophistique et sur le traité de Gorgias, le traité du non-être, qui est un texte absolument génial, parce que une génération après, 50 ans plus tard, il démolit, mais beaucoup plus que ça, c'est-à-dire il porte à sa visibilité les je ne peux pas dire les contradictions, disons les préjugés, les présupposés de la pensée soi-disant originaire de Parménide. Et si je peux le résumer d'une phrase, c'est Parménide dit il y a de l'être. Parménide, lui, par Heidegger, dit il y a de l'être, et l'homme est le berger de l'être, et il faut dire ce qu'il y a. Voilà, être, penser, parler, le même. On vit dans une co-appartenance de tout ça. Et Gorgias dit, ah bon, l'être, il y a de l'être. Ah oui, mais il y a de l'être parce que tu le dis. L'être est un effet de ton dire. Et je vais te le prouver. C'est que moi, je peux faire la même chose avec le non-être. Je dis exactement ce que tu dis de l'être, je vais le dire du non-être, et voilà, le non-être serait comme l'être, tout comme l'être. Bon, c'est une manière très violente de mettre en difficulté, pour de bon, à moins qu'on pense origine, etc., de mettre en difficulté l'origine elle-même. On peut toujours continuer à penser comme Heidegger, mais plus tout à fait, moi en tout cas plus, c'est plus possible.
Homme, femme, philosophie, c'est le titre de cet échange avec Alain Badiou, qui paraît chez Fayard, Barbara Cassin, Homme, femme, académie. On va glisser vers cette institution où vous avez fait votre entrée en octobre dernier. Quelle devise écrite sur votre épée ?
Plus d'une langue.
Plus d'une langue. Alors, vous allez nous en reparler. L'Académie française qui s'est montrée encline à une féminisation de certains noms de métiers ou autres titres cette année. C'était une petite révolution. Est-ce que vous y êtes pour quelque chose ? Pas encore. Est-ce que c'est une institution aussi conservatrice qu'on le dit maintenant que vous y avez fait votre entrée, que vous y occupez votre fauteuil ? Est-ce que vous avez le sentiment que vous allez devoir lutter contre ces forces conservatrices de l'Académie française ?
Non, je ne vois pas les choses comme ça. Peut-être que même si je les voyais comme ça, je ne le dirais pas. Mais je ne les vois pas comme ça. D'abord, pour l'instant, je n'ai pas fait une entrée réelle, puisque j'ai un devoir de silence pendant quelques mois. Donc j'écoute et je ne parle pas. Et j'écoute pour comprendre comment ça fonctionne dans cette compagnie. Et en l'occurrence, ce qu'on fait essentiellement, c'est qu'on s'occupe du dictionnaire de l'Académie. Et moi je m'intéresse au dictionnaire et je suis très heureuse de voir un dictionnaire en évolution, c'est-à-dire une langue française qui n'est pas conservée, pas conservatrice par définition, puisque quand le dictionnaire est fini, il recommence. Donc le rapport entre la norme et l'usage, c'est quelque chose de tout à fait passionnant. C'est passionnant depuis l'Antiquité grecque, depuis les grammairiens grecs et latins. Donc voilà, ça m'intéresse. Et par ailleurs, je dois dire que je suis extrêmement bien accueillie et que je trouve que, un par un, chacun des académiciens a sa manière d'être, sa manière de prendre, sa manière d'appartenir à une compagnie. Et ça, c'est véritablement plutôt charmant.
Il y a la grande cause des femmes pour laquelle il faut se battre, évidemment. Et de nouveau, c'est pas au nom du féminisme qu'on doit attaquer la langue française. Au nom du féminisme, on doit défendre pour de vrai les femmes. Et si on prend l'exemple que vous citez, je vous assure que dans les cours de récréation, on a beaucoup à faire, en effet, pour le respect des filles. Et ça passe pas par le fait de mettre e.e.s à la fin des mots.
Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, à propos de l'écriture inclusive, c'était déjà il y a 2 ans, ce n'est pas au nom du féminisme qu'on doit attaquer la langue française. Sur cette idée-là, est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Qu'est-ce qui est une attaque? Qu'est-ce qui n'en est pas une?
J'ai trouvé que le livre, par exemple, Le ministre est enceinte, c'est un livre très drôle. On nomme Hélène Carrère d'Encausse Madame le secrétaire perpétuel, pas Madame la secrétaire perpétuelle. Ce qui m'intéresse, moi, personnellement, c'est la manière dont tout ça s'est construit. Et ce dont ça témoigne, je pense que la langue française, comme peut-être beaucoup de langues, est plutôt machiste. C'est-à-dire que je suis toujours scandalisée par le fait que quand on a 15 noms féminins et un nom masculin, l'adjectif doit se mettre au masculin pluriel. Ça n'a pas été toujours le cas. C'est-à-dire qu'on pouvait aussi, en grec ou en latin, accorder avec le dernier nom. On aurait pu avoir... un nom féminin au bout et l'adjectif féminin. C'est très intéressant de comprendre comment ça fonctionne. On a forgé le mot épicène pour dire il y a des mots qui, comme philologue ou philosophe, vont pour les deux sexes, sont à la fois masculin et féminin, et au fond constituent quelque chose de l'ordre des neutres. Ou du masculin et féminin avec des tirets. J'observe plutôt la langue que je ne la contrains. J'observe comment elle fonctionne, j'observe son histoire et comment elle évolue. Alors, maintenant, si je suis d'accord avec le ministre Blanquer, je pense que, j'allais dire hélas oui, c'est-à-dire que je crois qu'en effet, mettre point E, même pas dans les cours de récréation, même pas seulement prononcé, mais écrit, c'est odieux, c'est illisible, pour l'instant c'est tordu pour rien, mais ça signale quelque chose de juste. Ça signale un vrai symptôme, ça signale une vraie prise d'attention. Et là, je travaille, par exemple, en Argentine, avec donc l'espagnol, et il y a vraiment pratiqué une langue espagnole dont les adjectifs ne sont plus en « o » pour les masculins ou en « a » pour les féminins, mais en « e ». Et ça, c'est très intéressant. C'est une apparition ou une réinjection de bisexe. Bigenre. Là, la langue fonctionne. Et d'ailleurs, les jeunes adoptent cette manière de parler. Très souvent.
Du coup, vous ne serez pas le cheval de Troie de l'écriture inclusive à l'Académie?
Non.
Non. Ça, c'est décidé.
Je veux dire, ça... Il me semble que... Oui, en tout cas, ça me tourmente pas.
Homme, femme, philosophie, dans la collection Ouverture chez Fayard. Barbara Cassin est notre invitée jusqu'à 13h30.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
Vous Vous êtes aujourd'hui, Barbara Cassin, une spécialiste du langage, comme on dit. Et vous avez notamment accordé dans la revue Esprit, sortie ce mois-ci, consacré à cette question, quand le langage travaille, un entretien dans et pour la langue, c'est le titre qui lui a été donné. Vous avez beaucoup approfondi, travaillé sur cette dimension performative du langage. Est-ce qu'elle est de plus en plus actuelle pour vous ?
Je pense qu'on en a de plus en plus conscience, en tout cas. Mais elle est de plus en plus actualisée, parce que je vous ai compris, ou bien la majorité c'est vous, ou bien yes we can, ça fait quand même un bout de temps que ce genre de slogan politique vaut. Or vous entendez bien comment chacun, au fond, est un performatif, c'est-à-dire que je vous ai compris, au moment où on le dit, il faut le croire, on le croit, et on croit que De Gaulle a compris, mais quoi ? Ensuite, le reste de l'histoire peut poser problème. Donc, le performatif, c'est-à-dire le fait que quand on énonce, ce soit actif. Quand je dis, il faut peut-être rappeler ça, quand je dis la séance est ouverte et que je suis en effet le juge qui est capable, en capacité d'ouvrir la séance, alors la séance est de fait ouverte. Mais c'est très vieux. Je veux dire que la parole sacramentaire a joué de ça depuis toujours. Je te baptise quand la personne qui le prononce est celui qui peut baptiser. C'est fait. Je t'absous, c'est fait. Ça fait longtemps qu'on se sert de ça. Alors peut-être ce qu'il y a de nouveau, c'est que depuis Austin, c'est-à-dire au fond, il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus quand est-ce qu'il écrivait, mais ça a été traduit en français dans les années 60, peut-être 70, enfin j'en sais rien. Lui devait parler en 50. Il a présenté ça comme une nouveauté absolue et même une révolution. Alors je crois que ça n'est pas vrai, je crois que ça n'est pas une révolution. Ce qui est révolutionnaire, c'est de montrer que c'est d'y faire vraiment attention et de travailler là-dessus. Et donc, travaillant là-dessus, c'est ainsi qu'il est arrivé à la conclusion que vrai, faux et valeur fait sont des fétiches. C'est très intéressant, c'est très compliqué. Moi, j'ai travaillé là-dessus d'abord en politique. C'est-à-dire, je vous ai donné quelques exemples, genre je vous ai compris, mais j'ai travaillé là-dessus grâce à la Commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud. Et ce qui se passait là était de l'ordre de la fabrication, en effet. La fabrication du peuple arc-en-ciel à travers les récits croisés, les aveux ou les témoignages des personnes qui avaient soit subi des violations des droits de l'homme, soit acté ces violations, soit faites ces violations, et fait ces violations. Effectivement, Desmond Tutu, qui présidait la Cour, a eu des termes qui sont absolument analogues aux termes des sophistes, aux termes de Gorgias, et analogues à ceux d'Austin. Il dit, on croit d'habitude que le langage décrit la réalité. La Commission n'est pas de cet avis. Le langage, discours et rhétorique créent la réalité. Ça, c'est la notion de performatif. Il performe, il fabrique. Et c'est bien ça qui s'est passé en Afrique du Sud, c'est-à-dire que le peuple arc-en-ciel, le nouveau peuple d'Afrique du Sud, s'est constitué à travers le langage, grâce aux mots échangés et grâce à toutes ces tribunes, à toutes ces auditions, qui se sont passés dans le pays entier et qui étaient répercutés à la télévision. Il s'est passé quelque chose d'extraordinairement vibrant et tangible. Voilà. Donc, c'est un moment qui, pour moi, a été un moment extraordinaire. Mais il y a d'autres endroits de langage, d'autres corpus qui fonctionnent comme ça. C'est-à-dire, je pense que la psychanalyse en est un. Il se passe quelque chose quand on parle en psychanalyse. Dire, c'est vraiment faire. Et pas toujours, il y a des conditions, et lesquelles, elles ne sont pas si faciles que ça à dresser. Mais il se passe là quelque chose. C'est un pour reprendre un terme de Benveniste qui parlait de Lacan, c'est un langage qui agit autant qu'il exprime. Bon, voilà, c'est très intéressant. Eh bien, les sophistes font ça aussi.
Alors, on a entendu aussi une parole s'exprimer en France au moment du grand débat national et surtout du mouvement des Gilets jaunes. On a entendu depuis le début de l'année et derrière le hashtag MeToo, cette prise de parole des femmes qui a été dans une certaine mesure suivie d'effets réels. On a aussi réfléchi à cette importance de la parole et des mots dans un conflit comme celui qui est d'aujourd'hui qui oppose syndicat à l'exécutif depuis la mi-décembre avec ce mot qui revient de part et d'autre, celui de responsabilité partiellement performatif aussi, utilisé à la fois par les syndicats et par le gouvernement. Encore ce week-end, le chef de l'exécutif, le président Emmanuel Macron, après Édouard Philippe, a appelé les opposants à la réforme des retraites à l'esprit de responsabilité. Est-ce que pour vous 2019 sera l'année de la victoire du langage? Ou est-ce qu'au contraire, le langage a été abîmé par cette ère de la post-vérité et des fake news, comme on entend souvent? Je vous propose juste d'écouter les mots de Marcel Gauchet à ce sujet. Post-vérité, fake news, fausses nouvelles, dangereuses ou pas pour la démocratie? Question qui lui était posée.
Est-ce que pour vous, Marcel Gauchet, cette post-vérité, ces faits alternatifs, c'est extrêmement dangereux pour la démocratie?
C'est pire que dangereux. C'est le commencement de la fin, si nous n'y prenons garde. Car la démocratie, ça repose sur la capacité de jugement des citoyens. Les citoyens ne vont pas produire eux-mêmes l'information. On la leur donne et ils se déterminent en fonction de cela. Si nous n'avons plus le support stable de faits avérés sur lesquels on ne discute pas après leur interprétation, on la tire chacun, ça veut dire qu'il ne reste plus dans l'espace public que le rapport de force. Et c'est là le commencement de la fin de la démocratie.
Voilà, et donc ce sera ma dernière question. Barbara Cassin, 2019, a-t-elle été pour vous, sera-t-elle l'année de la victoire du langage?
Non, j'aimerais que ce soit celle du jugement, de la victoire du jugement. Et moi, je veux reprendre le terme de Gauchet lorsqu'il dit, au fond, il faut une capacité de juger. Il a prononcé le mot de jugement. Il dit, c'est fichu avec les fake news parce que on n'a plus de la base sur laquelle juger. Mais je crois pas. Je crois que, justement, les fake news impliquent que l'on soit en capacité de juger, de se rendre compte de la vérité ou de la partialité de ce qu'on est en train de vous raconter. Les fake news, quand même, le grand exemple, c'était Trump. Et Trump disant, il y a plus de monde qu'il n'y en avait jamais eu, hein, bon, pour la présidentielle. Bah, juste ça, fake news, enfin, au secours, c'est faux. Bon, on est en capacité de le juger. Bon, et on est en capacité de juger ce que dit Bolsonaro. Bon, donc, c'est difficile de juger qui est le plus responsable ou le plus irresponsable entre le président Macron et les syndicats? Bon, là c'est autre chose, mais allez-y, essayons de juger. C'est tout ce qu'on a à faire. Donc c'est plutôt ça pour moi, le mot qui devrait surnager de 2019.
Merci beaucoup à vous, Barbara Cassin, homme-femme philosophie dans la collection Ouverture chez Fayard. C'est un ouvrage que vous co-signez, donc puisqu'un échange avec Alain Badiou dans le nouveau numéro de la revue Esprit, Quand le langage travaille. On y retrouve un entretien de vous et plein d'autres analyses très intéressantes sur ce sujet. Merci à toute l'équipe de la Grande Table, à Jean-Christophe Brianchon, Oriane Delacroix, Sophie-Catherine Gallet, avec Laura Dutèche-Pérez. À la réalisation aujourd'hui, c'était Alexandra Condilanguet avec Alex Dong. Bel après-midi à tous sur France Culture.